J'émets beaucoup sur ce que l'on nomme la décomposition des partis politiques, donc de la vie politique, croit-on. Mais les partis peuvent se décomposer pour de bonnes raisons, parce qu'ils reflètent précisément les mutations de la vie politique, ce qui est après tout leur fonction. Certes, toute déchéance ne prélude pas à une renaissance, les partis communistes de l'Est tombés en putréfaction ne se renouvellent pas pour autant, l'URSS n'a pas réussi du tout jusqu'à présent le passage au multipartisme, signe de la démocratie, sans revenir au totalitarisme pur, le président concentre chaque jour plus de pouvoir entre ses mains. Il me semble que la démission d'Edouard Shevardnadze est dirigée autant contre cette dérive autocratique de Gorbatchev que contre ce que l'on appelle les conservateurs. Car s'il avait voulu protester seulement contre ces derniers, il aurait au contraire collé de toutes ses forces à son chef. Par son geste, il lui reproche ce que tout le monde constate, en 6 ans ou presque, Gorbatchev n'a pas réalisé la transition démocratique et il n'a pas non plus commencé même à régler, sinon par la menace de l'état d'urgence, le sort des républiques désirant leur indépendance. Les vrais partis n'existent qu'en démocratie. Ils n'ont de sens que dans et par le pluralisme. Or, les grandes lignes de partage entre les partis démocratiques européens ont été tracées au XIXe siècle en fonction d'une autre société et de problèmes qui ne se posent plus de la même manière aujourd'hui. Elles furent renforcées au XXe siècle en fonction d'idéologies, de choix de société qui sont périmés. Il est donc normal que les partis tanguent. Le contraire serait inquiétant. Nous assistons donc en Europe occidentale à des séismes dans la plupart des grandes formations, tels le Parti communiste italien, le Parti socialiste suédois, le Parti travailliste britannique, et chez les conservateurs aussi d'ailleurs. Le Parti socialiste espagnol a fait sa cure de rajeunissement dès 1979, en répudiant la référence au marxisme. Quand il gagna les élections en 1982, il put ainsi, dès le départ, gouverner sur des bases claires. De même, au Portugal, Mario Soares a depuis longtemps modernisé le Parti socialiste en refusant d'emblée, selon sa propre expression, de faire au marxisme une concession mythologique et émotionnelle. Tout à l'opposé, le Parti socialiste français se paya au congrès de Metz en 1979 un programme utopique, archaïque et maximaliste. En 81, le contact avec l'exercice du pouvoir fut donc rude, ce qui contraignit Mitterrand 2 ans plus tard à la volte-face que l'on sait. Le fameux congrès de Rennes, où l'on vit en 89 les socialistes français se livrer entre eux à des pugilats qui scandalisèrent l'opinion, traduisait un désarroi. Mais ce désarroi qui reflétait un réel problème doctrinal valait mieux qu'une débilitante équivoque. La droite française est tout aussi secouée parce qu'elle ne peut plus vivre sur le seul capital du gaullisme nationaliste, inadapté à l'Europe des 12. La constitution gaulliste elle-même est remise en question. À part la CDU allemande, provisoirement sanctifiée avec des libéraux par la réunification, le seul parti européen que n'ébranle aucune tempête est le Parti communiste français parce qu'il est mort. Ce squelette politique ne peut plus s'insérer nulle part, il ne le peut plus à l'Ouest et il ne pourrait même pas dans le contexte de l'Europe de l'Est telle qu'elle est aujourd'hui. Le SPD allemand expie quant à lui sa tragique erreur de jugement dans l'affaire de la réunification et c'est très bien, l'expérience le contraint à repenser son rapport avec la société et la nation allemande. C'est à cela que servent les partis et c'est pour cela qu'ils sont indispensables à la démocratie. Leur vraie maladie ne sont pas leurs crises, ce serait qu'ils n'en aient jamais.